Merci.
Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Marie Sorbier, Thomas Corlin et Jean-Christophe Brianchon pour parler ensemble de l'enfant océan, d'après Jean-Claude Morleva, mise en scène Frédéric Sontag, La nuit du cerf par la compagnie Leroux, Habibi 2 et avec Julien Cottereau. Il y aura un coup de cœur, on ne sait pas s'il sera vraiment un coup de cœur positif, négatif, peut-être les deux, de Thomas Corlin pour Bajazet en considérant le théâtre et la peste d'après Racine, et Antonin Artaud, mise en scène Franck Castorf. Et nous ouvrons cette dispute avec l'enfant océan. C'est donc d'après Jean-Claude Morleva, c'est une mise en scène de Frédéric Sontag, c'est en ce moment au théâtre Paris-Villette. On avait parlé et dit grand bien ici même, il y a près de 2 ans, d'un précédent spectacle de Frédéric Sontag, Beach Raven, qui était le dernier volet de son cycle théâtral Trilogie Fantôme. On a eu Georges Caplan, on a eu Benjamin Walter et puis c'est Beach Raven. Cette fois, il s'agit du premier spectacle jeune public du metteur en scène qui adapte donc ce roman de Jean-Claude Morleva, star du jeune public. Un roman qui offrait lui-même une relecture d'un classique de la littérature jeunesse, Le Petit Poucet de Charles Perrault. Le Petit Poucet ici s'appelle Yann. Et l'assistante sociale qui le ramène à ses parents remarque bien que quelque chose cloche dans cette famille.
Bonjour, je m'appelle Nathalie Josse, je suis assistante sociale. Vous êtes bien Madame Doutrelot ?
Qu'est-ce qu'il a fait ?
Il n'a rien fait, je voulais seulement...
Daniel Tornio ! Qu'est-ce que vous voulez alors ?
Eh bien, je vous ramène Yann parce qu'il est arrivé sans cartable ce matin à l'école et qu'il n'avait pas l'air bien. Est-ce que je pourrais en parler avec vous ?
Voir avec le père.
Et je pourrais le voir quand ?
Demain. Entre, toi.
Juste avant de disparaître, Yann s'est immobilisé et m'a regardé par-dessus son épaule. Depuis, je revois sans cesse ce visage. J'ai eu la sensation troublante de lire dans ses yeux comme s'il avait parlé.
J'ai d'abord lu dans son regard un remerciement. Merci, vous avez été gentil avec moi, vous pouviez pas savoir. J'essaye de me persuader qu'il n'y a eu que ça, mais je sais bien que c'est faux. Ses yeux disaient autre chose, criaient autre chose. Et ce qu'il criait, c'était « Au secours !»
L'enfant océan est tout d'abord pour... Donc on a eu un peu de son, avoir un peu d'image avec Thomas Corlin qui va nous décrire l'espace de jeu et les parties prises de mise en scène, Thomas.
Un dispositif, je dirais, très dynamique et ingénieux. Donc on a en fond de scène 3 écrans, dont un qui est rectangulaire et fixe, central, sur lequel sont souvent projetés des maisons, des habitations, et 2 autres, carrés et mobiles, qui se baladent sur scène pour figurer d'autres paysages en général. Le sol est vert et sur le sol, ils mettent pas mal d'objets donc pour, on va dire, figurer les diverses situations. On a par exemple le siège conducteur pour le camion, le lit quand il s'agit d'une chambre. Donc tout est amovible et ça renouvelle continuellement, visuellement, ce que la pièce a à offrir.
Voilà. Partie prise de mise en scène, des comédiens qui vont interpréter plusieurs rôles et puis surtout, dire quand même quelque chose sur le petit Yann.
Alors justement, ça c'est, on va dire, le choix principal, je trouve vraiment, qui fait la différence dans cette mise en scène. Le petit Yann, donc on resitue un petit peu, c'est donc un enfant qui a presque 10 ans, mais il fait toujours la taille apparemment d'un nourrisson de 2 ans. Ils font le choix en fait de le...
Nourrisson de 2 ans est un concept intéressant.
Ouais, nourrisson dans 2 ans, non, je crois que c'est même encore plus petit, je crois, bref.
Ouais, bon.
Et finalement, donc apparemment, ils peuvent le porter sur leur dos, donc il fait même pas 50 cm ou un truc comme ça. En tout cas, c'est une marionnette. Ça commence à devenir de plus en plus étrange.
Oui, là, personne ne comprend.
Mais c'est un peu étrange, parce que, enfin, une marionnette sur scène, c'est toujours vraiment presque angoissant. Et en fait, on a presque l'impression.
Ça dit beaucoup de choses sur vous, mais.
Ça peut-être beaucoup de choses aussi, mais enfin, j'ai beaucoup pensé à Gisèle Vienne, j'y reviendrai plus tard. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression, finalement, que ce personnage est leur ami imaginaire, au bout d'un moment. On pense même plus qu'il est réel, ou que c'est un petit peu une sorte de cœur de ce petit collectif, de cette petite meute qui s'enfuit comme ça, dont il faut impérativement prendre soin. Et donc, c'est-à-dire que tous les gestes qu'ils ont, c'est pour manipuler, donc c'est les comédiens eux-mêmes qui manipulent.
En mode Bunraku pour les spécialistes.
Exemple. Et donc c'est quelqu'un en fait qui, enfin tous les comédiens manipulent la marionnette chacun à leur tour, et on a un peu l'impression qu'ils doivent prendre soin. Donc c'est toute une sorte de gestuelle vraiment de protection finalement vers ce personnage qui est central. Donc.
Alors un premier tour de table rapide pour un premier sentiment sur ce spectacle mis en scène par Frédéric Zantag, Marie Sorbier.
Un fait divers, une enquête pour un bon spectacle jeune public.
Jean-Christophe Brianchon.
Moi j'ai vu un théâtre jeune public qui prend son spectateur pour un adulte et je trouve ça très agréable.
Thomas Corlin.
Un road movie efficace et poétique.
Marie, pour développer.
Oui, alors je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Thomas. Pour moi, justement, ce petit garçon, donc c'est une fratrie de 7. Ils sont 7 enfants. Il y a trois paires de jumeaux et le petit dernier. Et ce petit dernier est donc une marionnette très réaliste. Et je trouve le choix de Frédéric Zantag très juste d'avoir incarné cet enfant qui est l'enfant prescient, c'est-à-dire c'est celui qui va les guider, qui sait toujours où aller, qui a toujours les bonnes idées, sachant qu'il est muet, hein, tout ça se fait par geste et finalement il n'y a que ses frères qui le comprennent. Et je trouve que l'avoir incarné dans une marionnette, donc dans un objet, c'est assez... C'est une prise de position assez franche de la part du metteur en scène, puisque finalement, le seul un peu sensible et donc humain de l'histoire, c'est une marionnette dans cette mise en scène. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant comme parti pris. Et puis, l'enquête, puisque c'est vraiment une enquête comme un feuilleton qu'on peut voir à la télévision sur ces faits divers, mais il y en a maintenant beaucoup. Ça fonctionne un petit peu pareil, il y a une polyphonie de voix, on croise toutes les personnes qu'ont croisé ces enfants donc dans leur fuite, puisqu'ils s'en vont de chez eux. Le petit entendant les parents disant « Demain, nous allons tous les tuer », un peu comme dans l'histoire du petit poussé. Donc, ils s'en vont en pleine nuit, et là commence une grande pérégrination. Ils croisent un chauffeur de camion, une boulangère qui va leur donner du pain, et puis ils arrivent dans cette maison donc où ils vont être séquestrés par l'ogre qui est ici un industriel un peu méchant. Et puis je trouve que cette enquête, ce parti pris de l'enquête fonctionne bien, c'est assez classique j'allais dire dans le travail de Frédéric Zantag, vous l'avez rappelé, ses précédents spectacles étaient également construits comme des enquêtes et sur un jeune public je trouve en effet que ça fonctionne très bien et qu'on ait ce suspense et cette haleine tient jusqu'au bout.
Alors, Jean-Christophe Brianchon, pour développer votre point de vue.
Moi, j'ai pas tellement vu ça comme une enquête. C'est amusant. Ah bon ? J'y avais même pas pensé avant que vous le
disiez. C'est un côté polar.
Mais alors, c'est vrai. Et maintenant que vous le dites, je revois les images et j'y repense. Et effectivement, il y a dans l'esthétique quelque chose qui s'en approche. Mais malgré tout, moi, j'étais vraiment comme un lecteur du Petit Poucet. Quoi, je lisais une histoire, je lisais ce vagabondage. Je suis plus d'accord pour dire comme Thomas Corlin qu'il s'agit d'un road movie plutôt que d'une enquête. Donc bon, mais ça c'est de l'ordre du détail. Pour ce qui est de mon ressenti concret, c'est effectivement j'ai vu, comme je le disais tout à l'heure, une pièce qui prend son spectateur pour quelqu'un de pensant, un être pensant et agissant, et je trouve ça très agréable quand il s'agit d'un jeune public. C'est pas rare et unique, puisque les bons jeunes publics font tout ça.
Oui, puisqu'il y en a de plus en plus.
En l'occurrence, là, c'est particulièrement bien fait et très, on va dire, très bon pour le sens de l'éveil des enfants, parce que ça met en scène plein de choses. C'est à la fois il y a du Bunraku, comme vous le disiez, avec cette marionnette de Yann. Il y a aussi du théâtre d'ombre, du théâtre d'objets, plein de choses qui sont mises ensemble, qui toutes ensemble constituent cette pièce et qui font que les enfants, entre autres, mais les adultes aussi, sont obligés toujours d'être actifs dans cette pièce et d'essayer d'être partie prenante pour, alors, soit, si on considère que c'est une enquête, essayer de, la résoudre et de la comprendre, soit si on prend ça comme une histoire à suivre, être toujours au plus proche de cette histoire et toujours être bien vif pour la comprendre. Ça demande une certaine forme de vivacité et je trouve ça très agréable et très agréable, sachant qu'en plus, par-delà tout ça, toutes ces choses mises ensemble constituent un décor, une scénographie qui sont plus qu'intéressants et plus qu'ingénieux, qui sont beaux. J'ai trouvé cette utilisation des écrans, entre autres certains instants, bon, sans les décrire par le menu, mais certains instants quand il nous donne l'impression qu'une voiture arrive sur nous en réunissant les écrans pour que les phares soient face au public, je trouvais ça très très joli, très ingénieux de nous éclairer de cette façon-là sans que ce soit des projecteurs comme il aurait été plus facile de le faire. Bon, plein de petites choses assez ingénieuses comme ça qui font de cette pièce un moment intéressant et beau.
Alors, si on parle d'enquête aussi, c'est peut-être parce que si on a vu les précédents spectacles de Frédéric Sontag, on sait que c'est ça son sujet, enfin c'est l'enquête. C'est l'enquête sur l'identité. Qu'est-ce que c'est que l'identité d'un individu? On a eu ça évidemment avec Georges Kaplan, avec Beethoven et avec autour le spectacle autour de Walter Benjamin. Ce sont des figures à la fois qui sont là mais insaisissables. Enfin, c'est la question de l'identité et de l'enquête. Thomas Corlin.
De toute façon, Le Petit Poucet, c'est quand même d'abord un récit indémodable qui résonne toujours dans nos imaginaires de plein de manières différentes. Là, en l'occurrence, quand même, Le Petit Poucet, c'est une meute, une petite communauté qui fuit un environnement tyrannique. Finalement, dans une quête qui est relativement poétique, puisqu'on sait pas exactement où ils vont, c'est-à-dire que donc le petit Yann veut juste voir l'océan. D'ailleurs, la fin a été changée par rapport à la relecture de Mourleva, en fait, à la fin du roman. Je crois qu'il part avec des marins une fois qu'ils voient enfin l'océan.
Et là, on ne dira rien,
effectivement.
Attention.
L'intérêt.
Vous avez frôlé le blâme.
Clairement. L'intérêt, je trouve, de la transposition scénique, c'est qu'effectivement, moi, j'y vois vraiment tous les côtés. Quand même, l'enquête, elle est là, parce qu'on a vraiment le langage aussi télévisuel, mais pas de manière péjorative. C'est-à-dire qu'on a vraiment toutes les interviews, les personnages sont tous d'une certaine façon assez stéréotypés, mais c'est pas très grave, c'est pas envahissant, il y a un côté un peu bidochon de description de la misère sociale, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Ça reste assez comique, c'est vraiment très cliché, et puis c'est discutable, mais c'est pas très grave. Et à côté de ça, je trouve quand même qu'il y a aussi ça s'oppose aussi avec l'univers beaucoup plus onirique, beaucoup plus abstrait de l'enfance, c'est-à-dire quand ils partent eux-mêmes, quand on les retrouve en forêt, quand également ils sont enfermés chez l'ogre, où d'un seul coup il n'y a plus rien, il n'y a plus de projection ni quoi que ce soit, on touche autre chose et je trouve ça assez bien fait. Ça me fait énormément penser, pour revenir à l'histoire de la marionnette, que je trouve un très très bon choix et qui vraiment donc fait la différence dans la pièce, mais à Gisèle Vienne, c'est impossible de ne pas penser à Gisèle Vienne et à Jonathan Cape de Vienne, qui ont toujours utilisé des marionnettes particulièrement flippantes dans le cadre, c'est moins plombé, et aussi qui parlent d'adolescence.
Les histoires
troublées.
Sont pas les mêmes.
Les histoires sont pas les mêmes, mais je crois que actuellement, je crois que Jonathan Cape de Vienne fait un spectacle tout public sur Rémi sans famille, je l'ai pas vu, mais il paraît que ça, il y a un certain nombre de résonances entre les deux.
Oui, les marionnettes, les Bunraku, d'ailleurs, on les voit de plus en plus souvent. J'étais en train de chercher plus d'ailleurs dans quel spectacle de Thomas Ostermeier il y en avait une. Enfin, c'est une figure assez souvent utilisée pour figurer une enfance qui empêchait de parler ou une enfance maltraitée. Mais ce que je disais tout à l'heure sur Frédéric Sontag, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait des spectacles, on va dire, adultes avant, et là, tout public plutôt que jeune public. Mais il adapte, en fait. Il est complètement resté fidèle à ce qu'il recherche. Marie Sambier.
Oui, tout à fait. En effet, on parlait de l'enquête et puis aussi cette polyphonie qu'il employait dans ses spectacles précédents, c'est-à-dire ses prises de parole, ses points de vue divers dans toute la pièce. Ce que je voulais ajouter aussi, et je voulais dire que les acteurs notamment, ils sont 5, je crois, sur scène, ils jouent en tout une vingtaine de rôles, puisque donc on a expliqué, il y a ces paires de jumeaux, il y a tous ces personnages, les parents, tous ces adultes qui croisent, et ils ont réussi, dans la direction d'acteurs, je trouve, à donner une épaisseur et une individualité à chacun des enfants, ce qui est quand même un petit peu difficile, parce que comme vous le disiez, au départ, c'est une meute, c'est un groupe, avec donc le petit qui est intelligent et qui va guider, et puis tous les autres qui suivent. Là, cette mise en scène et le parti pris du jeu d'acteur donne en fait un caractère à chacun, ce qui est assez agréable à suivre. Les jumeaux se dissocient, on comprend qui est plutôt responsable, qui est un peu fou furieux, etc. Et tout se dessine et ça donne à chacun des personnages une vraie épaisseur et un peu de complexité. Voilà, on n'est pas dans la simplicité.
Et pour le spectacle jeune public, je trouve que justement, c'est une interprétation qui est candide et bien dosée. Et comme disait Jean-Christophe tout à l'heure, c'est à la fois lisible pour les enfants, mais aussi ludique pour les adultes. Donc tout le monde vraiment y trouve son compte, je trouve.
Confirmé, Jean-Christophe Briançon.
Oui, je confirme, et c'est une pluralité des voix aussi qui permet, en plus de la scénographie dont on a pas mal parlé, sur le plan dramaturgique, de construire quelque chose de très intelligent aussi, parce que ça nous oblige, alors c'est un procédé assez classique, mais la succession de ces témoignages permet de voir sous différents angles, à un même moment, à plusieurs reprises, ce qui permet donc justement de se mettre, comme vous le disiez, même si je l'avais pas vu, d'être dans une forme d'enquête, parce que à force de points de vue successifs sur un même instant, on finit par la lumière finit par se faire, et ça crée une dramaturgie qui est très intéressante et somme toute assez classique pour un spectacle pour adultes, mais je trouve que montrer ça à des enfants, c'est quand même leur faire très confiance, là encore.
Je pense qu'il a raison, ils ont raison de faire confiance aux enfants, Marie Sorbier.
Tout à fait. Bon. Et puis je rejoins juste un dernier mot totalement Jean-Christophe sur la scénographie de Marc Lenné, que j'ai trouvé
Il est fort, Marc Lenné, hein.
Incroyablement juste, en fait, et sur cette utilisation de la vidéo où on peut parfois en débattre, je trouve que souvent, elle a un sens. Elle a un sens et elle est utilisée au mieux, et j'ai trouvé ça vraiment remarquable.
Bon, ben voilà, que de bonnes raisons pour aller voir L'Enfant Océan, d'après le roman de Jean-Claude Morleva, adaptation mise en scène Frédéric Sontag, au Théâtre Paris-Villette en ce moment jusqu'au 5 janvier, mais rassurez-vous, ce spectacle que nous avons aimé passera sans doute près de chez vous, puisqu'on pourra le voir le 14 janvier au Manège, la scène nationale de Maubeuge, les 21 et 22 janvier au Grand Air, c'est la scène nationale de La Roche-sur-Yon, du 28 janvier au 1er février au Grand Bleu. Là, c'est à Lille, cette scène conventionnée. 13 et 14 février, Tangram, scène nationale d'Evreux. Du 25 au 28 février, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. Du 12 au 15 mars, toujours pour L'Enfant Océan, le théâtre Amstramgram à Genève. 19 et 20 mars, ce sera à l'Agora d'Esnos de l'Essonne. 27-28 mars, ma scène nationale, pays de Montbéliard. 6 et 7 avril, théâtre Théo Argence à Saint-Priest. Et enfin, 5 et 6 mai 2020, La Filature, scène nationale de Mulhouse. Voilà une belle tournée pour L'Enfant Océan. Et puis on imagine, on espère, pour elle et pour eux, qu'il y aura d'autres dates à venir la saison prochaine. Pour ce qui nous concerne, ce qui suit, cela va être La Nuit du Cerf, Habibi et Bajazé.
France Culture. La Dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec La Nuit du Cerf par la compagnie Leroux au Théâtre Libre Jean-Marc Dumonté. Le cirque Leroux, c'est une compagnie française qui a été créée en 2014, qui a signé l'année suivante un spectacle intitulé Elephant in a Room, qui a tourné dans le monde entier plus de 400 fois. 400 représentations. Le second opus, donc, La Nuit du Cirque, du Cerf. Oui, ça pourrait être La Nuit du Cirque aussi. Qui reprend les mêmes éléments de ce qu'ils appellent le ciné-cirque. C'est pour ça que je faisais ce lapsus et qu'on va décrire. Le point de départ, c'est la mort de Miss Betty. La réunion de ses trois enfants dans sa maison et l'arrivée d'un mystérieux inconnu alors qu'ils sont en train de préparer l'enterrement. Avant d'entendre un peu de musique et de parler vraiment de ce spectacle, Marie Sorbier, à quoi ça ressemble, La Nuit du Cerf, c'est quoi ?
Alors je trouve que quand ils se définissent comme ciné-cirque, c'est assez juste et on comprend bien avec ce mot ce que ça peut vouloir dire. C'est-à-dire, on est dans une atmosphère très cinématographique, c'est ce qu'ils cherchent à nous faire ressentir. Donc on est dans cette maison bourgeoise, en campagne, où comme vous l'avez dit, une fratrie se rassemble pour préparer les funérailles de leur maman qui aura lieu le lendemain. Un intrus arrive dans ce décor et puis là s'ensuit une suite de rebondissements divers et variés avec les conjoints de chacun.
Le rebondissement est un bon terme là en l'occurrence.
Totalement, tout le monde se mélange, la nuit se passe avec des choses incroyables. Au niveau scénographique, on est donc dans ce salon avec une table, des fauteuils, deux alcôves en fond de scène qui vont servir tantôt de boudoir, de fumoir et de chambre à coucher. Un décor très réaliste, des tentures, on est vraiment dans cette maison de famille assez étrange quand même. On a cette atmosphère, alors on dit cinématographique parce que ne serait-ce que le générique, ça commence par un générique, exactement comme dans un film, avec donc le nom des comédiens qui apparaît au-dessus d'eux, ils ont une poursuite sur eux, et puis on a le nom du comédien, et puis ils regardent leur nom, et puis ils trouvent ça assez drôle d'être nommé comme ça. Voilà, on a une série de clins d'œil comme ça, une espèce d'ambiance, un peu nouvelle vague, alors ça c'est ce qu'ils disent, moi je suis pas sûre de l'avoir tout à fait vu, mais c'est ce qui, en tout cas c'est ce qu'ils recherchent. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que on est dans un spectacle entre un théâtre humoristique et du cirque, puisque c'est quand même une compagnie de cirque. Vous l'avez dit, elle est basée en France. Elle est quand même assez québécoise,
oui,
je trouve, dans la couleur.
Moi, je crois qu'ils étaient québécois,
donne.
C'est pour ça qu'ils sont même basés en région aquitaine, soyons précis.
Exactement, mais les accents et même le type de cirque qu'ils pratiquent, on repense à d'autres.
Éloise, voilà. Ou les Sidois de la Main.
Exactement, compagnie québécoise.
Voilà. Écoutons un peu de cette musique originale de La Nuit du Cerf. Serait-ce un film d'horreur? Bon, premier sentiment sur ce spectacle, tour de table, Jean-Christophe Brianchon.
Une pièce qui aurait pu être burlesque, mais qui finit par être totalement grotesque.
Thomas Corlin.
Un show d'acrobatie à l'américaine avec des références tarantiniennes, mais pour le fun.
Et Marie Sorbier.
C'est un spectacle qui oscille entre théâtre et cirque. La partie théâtre est assez ratée et le côté cirque est plutôt pas mal.
Bon. Développons. Jean-Christophe Brianchon, racontez-nous votre expérience de spectateur. Est-ce que vous en avez retiré ?
Alors, moi, déjà, je voulais revenir sur l'aspect cinématographique dont on parlait, parce que, il y a beaucoup de grandiloquence dans ce désir de faire du ciné-théâtre.
Ciné-cirque.
Beaucoup de grandiloquence, ou en tout cas, un réel désir d'affirmer ce genre dont ils seraient les créateurs, mais on ne retrouve ici absolument rien de ce qui peut faire le cinéma, selon moi, si ce n'est effectivement déshabiller dans ce qu'il a de moins intéressant, c'est-à-dire son générique, son générique, et éventuellement l'utilisation de la musique. Pour le reste, rien n'est là du cinéma, ou en tout cas, sans revendiquer, c'est considérer le cinéma comme quelque chose de bien moins intéressant que ce qu'il peut être. Donc voilà, moi ça me marque particulièrement. Ensuite, parler de cirque éventuellement, pourquoi pas. Et d'ailleurs, c'est là où finalement le spectacle est plus intéressant, puisque au départ, la scène est habillée, très habillée, avec un décor assez lourd, très présent, qui petit à petit s'en va, se désosse, pour finir sur une scène nue où ne resteront que finalement les outils de sport, on va dire, les outils d'acrobates, quoi. Et là, à cet instant-là, on arrive.
Le mot c'est agréé, en effet.
On arrive à ce que la pièce. Non, pas assez peut-être.
Voilà, même vous certainement. Y envoyez en stage.
Mais voilà, à ce moment-là, on arrive à ce que la pièce est réellement un spectacle d'agrès, de portée, de un spectacle de sport, quoi, quasiment. Hein. Donc à cet instant-là, on touche à quelque chose de vrai. Avant tout ça, pas grand-chose ne reste. On a le sentiment d'avoir affaire. En fait, pendant la pièce, j'ai pensé, je sais pas pourquoi cette référence m'est venue. Vous savez, le gâteau dans Friends, où à un moment, qui est un gâteau dégueulasse, où Ross le mange en disant, oh ben moi je trouve pas, la viande est bonne, la confiture est bonne, parce qu'en fait c'est un gâteau fait avec tout ce qu'il y avait dans le frigo. Bah là c'est un petit peu pareil, alors tout est là, tout est plutôt bon, je veux dire les interprètes sont pas mauvais dans le genre du théâtre burlesque un petit peu affirmé, ils sont bons évidemment qu'en tant que circassien, moi je suis personne pour leur dire qu'ils font mal leur métier, ils font manifestement très bien ce qu'ils font. Bon, tout est là, tout est bien fait, mais à la fin, est-ce qu'on a envie de manger un gâteau avec de la viande, des cerises et de la confiture? Je suis pas certain.
Bon, Thomas Corlin,
je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit.
Estomac délicat aussi donc.
Estomac délicat aussi. Délicat, oui. On est donc sur du cirque extrêmement calibré, très athlétique, et pareil, je n'ai pas jugé des compétences de ces acrobates.
Faut savoir si ça vous impressionne, si vous faites si vous avez peur qu'ils tombent.
Justement, oui. C'est ça le cirque. Les moments de vérité.
On a tous un avis sur le cirque.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit aussi, c'est que les seuls moments de vérité sont quand finalement ils n'essaient plus de faire semblant et de vouloir s'enrober dans tout plein de références cinématographiques. L'interprétation est quand même très guignolesque quand ils veulent faire du théâtre. Bon, après tout, c'est un genre, ça rappelle énormément les spectacles comiques chroniques de télé québécoises, mais il y en a des très bons d'ailleurs, je sais pas pour ceux qui connaissent.
Ça c'est pointu ça, là, j'avoue.
Ouais, c'est
pas très bon, pas mal, les Marc Labrèche, des choses comme
c'est
ça.
C'est quoi
Marc Labrèche? Bon, ce sera une autre émission, c'est plutôt à aborder une autre fois.
Labrèche.
Mais donc, ils aspirent toujours à être plus que ce qu'ils sont, et c'est pas toujours très nécessaire. Donc on nous sert effectivement de la vidéo en intro, il y a carrément un petit film en fait, avant ce générique. On a presque envie d'y croire, c'est une espèce de truc avec ce cerf qui est dans la forêt, qui se pose des questions sur ce qu'il est, etc. Donc au début, on peut se dire, bon, ils veulent vraiment faire quelque chose, mais ça reste ultra décoratif. Donc on est vraiment dans les références des années 60-70, soit la contre-culture, ça commence quand même avec une phrase de Hunter S. Thompson, donc on est là, bon, pourquoi pas, c'est tout à fait gratuit. On a également, finalement, c'est énormément de vintage un peu fétichiste, comme chez Tarantino, et ça ne sert pas à grand-chose. Je rappelle quand même qu'aussi, même avant le spectacle, la musique d'attente, c'est Velvet Underground, c'est Hendrix, etc. Donc ils insistent énormément pendant le spectacle aussi. On a un morceau de, je crois que c'est Kenny Rogers, qui est vraiment toutes les références contre-culturelles des années 60. Mais en fait, pourquoi? Et finalement, je suis tout à fait d'accord, les moments de vérité, c'est-à-dire à la fin du spectacle, quand ils partent, donc sur vraiment, on va dire le bouquet final, donc c'est des numéros de suspension qui sont tout à fait balèzes, mais en fait, ils ont abandonné leur petite comédie policière, tout est dénoué, donc on s'en fout un peu, leur rôle également, leur pseudo-trame narratif, et là, on est vraiment dans ce qu'ils savent faire de mieux. Et je crois que c'est vraiment là que je me suis vraiment
amusé. Oui, c'est là que le spectacle a un sens.
Et que ça fonctionne, quoi. Alors bon, voilà, il y a vraiment tout aussi dans le spectacle. On pense à Grease, on pense un petit peu au Rocky Horror Picture Show parfois, avec la trame narrative dans la nuit, comme ça. Les personnages qui débarquent, etc.
Bref. Réalise.
C'est assez, voilà, c'est assez anecdotique finalement. Mais bon, c'est du bon cirque, quoi.
C'est du bon cirque qui fait se lever les foules.
Apparemment.
À la fin du spectacle. Bon, Marie Sorbier.
Oui, moi, ce qui m'a gêné principalement, c'est qu'ils utilisent le théâtre en fait comme transition, parce que finalement ce sont des circassiens. Alors ils essaient d'être acteurs, comédiens et drôles, ce qui pour moi en tout cas n'a pas fonctionné, cette partie-là du tout. J'ai pas ri une seule fois, je trouvais ça assez lourd, alors même que dans leur pratique circassienne, ils ont cette légèreté et cette magnificence qu'on peut attendre. Donc c'était très dommage. Et puis utiliser le théâtre comme ça, comme un monsieur loyal déployé, mais avec beaucoup de moyens et beaucoup d'intentions et de grosses ficelles, c'était vraiment dommage. Alors que ce qu'ils savent faire, ils le font très bien. Il faut quand même saluer l'éclectisme de la proposition. On a des équilibres, des portées, il y a du patin à roulette à un moment donné. Il y a des agrès, on l'a dit. La plus belle scène, c'est la scène finale, hein, en effet. Quand tout se vide et qu'il y a cet agrès et qu'ils font une balançoire humaine, alors ça va peut-être un autre terme, je m'excuse si j'ai pas les bons termes, mais ils sont suspendus les uns aux autres à cet agrès très haut comme ça, et puis ils se balancent, c'est assez beau, il y a quelque chose de poétique, mais parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus que cet agrès éclairé sur les côtés et eux qui se balancent et qui font des portées assez impressionnantes, c'est les 10 dernières minutes du spectacle. Tout l'avant est quand même assez lourd et je ne vois pas l'intérêt en fait de toute cette partie comédie, finalement, qui ne fait qu'empeser sur le reste.
Bah, c'est pour que le spectacle ait une durée qui dépasse l'assemblage des numéros seulement.
Mais ils tentent même autre chose aussi, c'est même en dehors du comique, ils tentent également des moments presque un peu danse-théâtre, quand il y a des numéros de duo comme ça qui sont censés.
Ça danse, tout à fait.
Voilà, ils sont censés supposer un petit peu, suggérer l'érotisme ou alors le romantisme. C'est un petit peu kitsch quand même aussi. Et il y a une autre chose dont je comprends pas très bien l'utilisation, enfin la présence plutôt dans la pièce, c'est cette espèce de mise en abîme au sujet du monde du show business, puisqu'on est sur un personnage qui en fait, donc je ne raconte rien de l'anecdote.
À Los Angeles.
À Los Angeles, qui finalement s'était fantasmé, donc star d'Hollywood. On ne sait pas très bien ce que ça vient faire là, finalement. Alors, ils font 2-3 blagues autour de ça. C'est un peu gratuit, comme mise en abîme, en l'occurrence.
Mais l'histoire, de toute façon, la trame narrative est gratuite. Oui. Totalement gratuite de A à Z. Elle ne sert qu'à nous permettre de voir les numéros qui sont ceux-là et dont on a dit qu'ils étaient bien faits. Que ce soit cette histoire de starlette hollywoodienne, l'autre personnage qui est directrice de la rédaction d'un grand magazine de mode qu'on imaginait de Vogue ou quelque chose comme ça. Bon, tout est un peu à l'avenant. Ça permet malgré tout d'intégrer ces numéros dont on a parlé. Et comme le disait Arnaud, moi en tout cas le soir où j'y suis allé, c'est important de le signaler parce que c'est une réalité. Le public était ravi et vraiment plus que ravi. Je me suis trouvé dans une salle où, à l'unisson, tout le monde s'est levé pour applaudir et vraiment montrer leur gratitude à ces interprètes. Donc voilà, faut le dire, c'est un spectacle qui fonctionne et que le public aime énormément.
Oui, alors comme beaucoup d'autres théâtres avec cette fin d'année qui est ce qu'elle est. Ils ont aussi du mal à remplir les salles. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est quand vrai. Même, ça fait partie quand même des choses à vous faire rire, Thomas. Mais entre les différentes grèves, les théâtres, ils ont du mal. Donc, bon, il y a des gens qui ont grand plaisir à aller voir le cirque Le Rousse, qui est peut-être pas la compagnie Le Rousse, qui est peut-être pas tout à fait.
Ce qui serait pas le cas s'il y avait pas de grève. C'est ça que vous dites. Hein.
C'est ça. En fait, ma phrase est mal partie. Donc, je vous remercie de le noter comme il convient. Allez voir, si vous en avez envie, La Nuit du Cerf. La compagnie, c'est le cirque Le Roux. C'est une mise en scène de Charlotte Saliou qu'on n'avait pas mentionné jusque-là. Donc, il faut quand même le dire parce que c'est elle qui signe cette mise en scène, comme elle le fait de nombreux spectacles. C'est jusqu'au 9 février au Théâtre Libre Jean-Marc Dumonté. C'est l'heure du coup de cœur, ou pas, de Thomas Corlin pour Bajazé en considérant Le Théâtre et la Peste d'après Racine et Antonin Artaud. Cette mise en scène de Franck Castor, c'est actuellement en tournée. Je donnerai quelques-unes des dates à venir, de Madrid à Valence en passant par Annecy, Modène et puis Porto et Lisbonne. Mais comme vos camarades du soir ont vu le spectacle, ce coup de cœur va se transformer en mini-dispute dans un instant.
C'est pas exclu, ouais. Vous êtes bienvenus. Donc un coup de cœur quand même très ambivalent parce que je suis passé par des états très antagonistes pendant les quand même 4 heures que dure cette éreintante adaptation.
Ça fait 4, avec les deux mains, ça fait 8 heures. C'est votre sentiment que ça a duré 8 heures.
Non, le début en tout cas. Mais bon bref, donc c'est la fameuse tragédie de Racine Bajazé par Franz Castorf. Je resitue un tout petit peu donc le metteur en scène allemand, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il a longtemps dirigé la fameuse Volksbühne de Berlin. Et il a fait des mises en scène connues donc pour leur maximalisme, on va pouvoir en reparler, leur direction outrancière d'acteurs, c'est encore le cas, et leurs installations vidéo, quitte parfois à excéder le public. Il y avait eu à Beyrouth en 2013, sa tétralogie de Wagner qui avait été huée, mais qui avait également fait l'objet d'un livre entier. Alors aujourd'hui, il s'attaque, et c'est vraiment
le mot. Il date aussi, hein, Franck Castor, ça, vous ne le dites pas.
Ça fait longtemps.
Ça fait quand même longtemps qu'il est là, il a beaucoup influencé tout le théâtre allemand, et pas seulement allemand, les metteurs en scène qui sont aujourd'hui dans la force de l'âge lui-même. Voilà, la question se pose de savoir, et c'est ce que vous allez peut-être nous dire.
Alors, donc,
il est encore au goût du jour, voilà. Quand Franck Castor.
Eh bien, justement, alors moi, j'en avais jamais vu, parce que mon n'avait forcément l'âge de voir à l'époque, etc. C'est cela. Alors, donc, il s'attaque, et c'est vraiment le mot, la tragédie, dont la plus turque de Racine. Je resitue très très vite, c'est un triangle amoureux à Constantinople, avec autour du personnage éponyme, qui hésite entre Roxane, qui est proche du pouvoir et qui pourrait lui sauver la vie, et Attalid, qu'elle aime vraiment, sur le tout, sur fond, comme d'habitude chez Racine, de manipulation politique. Alors, pour compliquer un peu les choses, Castor a décidé d'y intégrer, de façon assez intempestive, des extraits du théâtre et son double et d'autres textes d'Artaud, et également un petit peu de Pascal et de Dostoïevski, parce qu'après tout, pourquoi pas. Alors, je pense que ça nous est déjà tous arrivé au théâtre. Parfois, il y a des pièces qui se révèlent soudainement, sans qu'on s'y attende, après avoir insupporté dans un premier temps.
Ah, et c'est exactement ce qui s'est passé. Sobre la tierra. Moi, c'était sur Angelique Halidal, ça m'est arrivé.
Ah oui,
c'est une épiphanie au bout de 2h15 de spectacle.
Donc là, j'ai un petit. Bah, pareil, j'ai eu cette épiphanie. Bon, quand même, au début, sur les deux premières heures, et c'est quand même un peu long, tout sonnait pour moi vraiment faux et gratuit. Ça rappelait les pires relectures dites un peu destroy et subversives des grands classiques du théâtre. Donc on avait la diction ultra exagérée. J'avais pas vu ça depuis l'adaptation. Du passage de midi de Claudel qu'on avait traité partage de midi l'année dernière qu'on avait traité ici. On a également donc un scénographique un peu tape à l'œil qui fait sens au bout d'un moment, je la décris vite fait. Donc une énorme reproduction du sultan, c'était un tableau de Véronèse de plusieurs mètres, une tente également en forme de burqa, on en fait ce qu'on en veut, une cage dorée, un signe Opel dans le fond. J'ai découvert plus tard qu'en fait Opel était un des premiers des premières industries qui amenaient des ouvriers, les Gastarbeiter turcs en Allemagne, donc c'est pour ça, d'où la présence du truc, enfin de ce signe, une cuisine un peu glauque qui est retransmise en vidéo. Donc on avait également des éléments de pop culture contemporaine ultra ostentatoire pour marquer quand même un certain décalage, mais faire un petit commentaire sur son époque, une hystérie généralisée dans le jeu, une utilisation assez spectaculaire de la vidéo et des blagues lourdes pour quand même nous faire comprendre qu'on est quand même face à des gens qui sont un petit peu des joyeux lurons auxquels on la fait pas. Et puis aussi des préceptes d'Artaud, ben honnêtement, j'ai trouvé abordé avec pas mal de premiers degrés, à savoir les cris, l'exacerbation des émotions, la saturation des sens, etc. Eh bien, malgré tout ce que je viens de dire, malgré la description accablante que je viens d'en faire, il y a eu basculement chez moi et tous ces traits.
Au bout de combien d'heures ?
Au bout de 2 heures. Alors très précisément, c'est le moment. Non, je crois que c'est 1h30. Je pense vraiment qu'on peut appeler ça la magie du temps au théâtre. Il y a eu ce moment où Jeanne Balibar, nue avec un tuyau de chicha autour du cou, qui est juste après d'avoir essayé de se pendre avec, prend soudainement conscience des trahisons donc qui menacent son personnage et qui se met frénétiquement à faire la cuisine en fait, un pot-au-feu, c'est exactement ce que je pensais que c'était un pot-au-feu, oui. Avec une caméra qui est la suite très près. Et là, quelque chose s'est ouvert et tous les signes de la pièce sont devenus tranchants avec une sorte d'interprétation. Il y a aussi une interprétation hyper pouilleuse des lettres hyper intimes d'Artaud par Jean-Damien Barbin.
Devant le miroir.
Devant le miroir, notamment. Alors, tout le monde passe au miroir à un moment. Il y a cette scène de redescente où Mounir Margoum révalue les grandes passions destructrices de la pièce avec les pensées de Pascal sur le divertissement. Donc, il y a plein d'autres grands moments, je trouve, de tension et de sidération au milieu de cette pièce, donc, qui est quand même un gros théâtre d'excès. Et c'est pourquoi, malgré la répulsion qu'elle peut inspirer, je recommande vraiment cette pièce, parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on cherche au théâtre quand même ? La catharsis.
La tête de Jean-Christophe Brianchon, quand vous parlez, me donne envie de lui donner la parole sur ce spectacle de Signé France Castor.
J'aurais aimé être agacé comme vous avez pu l'être. Ça me fait même pas cet effet, ça me le fait même plus. C'était pas la première. C'était peut-être la dernière pièce de Castor que je voyais, je sais pas. On verra en fonction de la façon dont je me remets de cet épuisement. Je trouve que c'est d'un ringard absolu aujourd'hui de montrer ça de cette façon-là. J'ai l'impression d'un adolescent. Alors c'est beau à la fois, un adolescent de 70 ans, mais malgré tout, voilà, d'un adolescent qui essaye de s'attaquer au classicisme par la violence et par des textes qui, accessoirement, sont eux-mêmes des textes très adolescents et pas très intéressants d'Artaud, à part les extraits du théâtre et son double qui, bon, ne sont, je sais plus s'ils sont nécessaires à faire entendre ou non, en tout cas, en dehors de ces textes-là, qui sont des textes d'Artaud qui sont vraiment pas intéressants, vraiment plus intéressants, tout ça dans une mise en scène très, très exacerbée et à la fois dépouillé de tout pour ne nous montrer pas grand-chose. Jean-Damien Barbin, qui habituellement peut exceller pour moi et que je trouve être un des plus grands comédiens qu'on puisse avoir aujourd'hui, est ici complètement éthéré, là, hurlant à dire n'importe quoi. On ne comprend même plus ce qu'il dit, tellement sa diction est excessive. Voilà, tout ça dans un brouhaha qui essaye de nous montrer que le monde bouge, ou qu'en tout cas le théâtre de Franck Castor bouge. Pour moi, il stagne terriblement.
Marie Sambier.
Alors j'ai un avis un tout petit peu différent, parce que j'ai une reconnaissance du ventre, j'allais dire, à Franz Castorf, qui j'ai eu vu des spectacles il y a quelques années qui m'ont transporté, et donc je lui dois ça. Donc quand je viens dans une salle voir un spectacle de Castorf, je suis un peu à la messe quand même. J'ai quand même une reconnaissance devant ce grand metteur en scène qui a fait beaucoup pour le théâtre contemporain d'aujourd'hui. Donc j'y vais presque conquise d'avance. Alors un petit peu comme les derniers spectacles vus, c'est un peu les montagnes russes. C'est-à-dire je passe par des grands moments d'ennui, mais vraiment grands moments d'ennui, avec quelques scènes que j'ai trouvées sublimes, qui me réveille, me dit quand même il sait faire du théâtre, c'est quand même un grand metteur en scène. J'ai trouvé Jeanne Balibar, dont je ne suis pas totalement fan à chaque fois, assez prodigieuse sur cette scène-là. Je la trouve juste dans sa folie. Barbin, je suis d'accord avec vous, m'a assez insupportée, mais alors là, de A à Z, ce qui était déjà le cas dans les précédents spectacles, mais là je peux plus. Par contre, les deux autres rôles masculins dont j'ai pas, pardon, les noms sous les yeux, je les ai trouvés vraiment incroyablement justes aussi. C'était une vraie découverte pour moi, ces deux garçons. Et donc c'est un sentiment aussi mitigé, mais plutôt positif à la sortie. Je suis très contente de l'avoir vu. Voilà.
Bon.
Et par ailleurs, je trouve qu'il y a, au-delà de l'avis subjectif qui peut être le mien, je trouve qu'il y a par ailleurs un vrai problème dans la construction concrète et dramaturgique de cette pièce, et qui trouve une origine qu'on m'a expliquée par la suite, puisque je trouve que c'est un spectacle qui est fait d'images et de séquences, et qui ne trouve pas son unité, et cette unité ne se trouvant pas simplement parce que Franck Castor ne l'a jamais vu en entier, son spectacle. Il l'a en fait construit par cellule, il a dit à ses comédiens, faites ça, et il ne l'a jamais vu en entier. Parfois ça marche, parfois ça marche pas.
Alors peut-être que ça marche, plus il se joue, plus ça marche, peut-être qu'il faut le voir.
Oui, parce que c'est aux comédiens de faire leur.
Plus tard, mais c'est cuisine, vrai que c'était le problème sur les précédents spectacles, c'est-à-dire qu'on a des morceaux.
C'est ça, et des morceaux magnifiques, à chaque fois.
Et de très longues ennuis aussi, avant d'arriver sur des pépites.
Après, c'est mais,
parce que, non, mais ça dépend des spectacles, sur les précédents. Ça pouvait être beaucoup plus long. Écoutez,
parce
alors.
Il était assez raisonnable avec les 4 heures par rapport à ce qu'il nous avait fait.
Oui, absolument.
Plutôt court. Bon, et c'était en français.
Oui.
ce qui n'est pas toujours le cas
dans
ces spectacles.
Bon, là c'est Bajazé, en considérant le théâtre et la peste, cette mise en scène de Franz Castorf d'après Racine, Artaud et quelques autres. Les prochaines dates à venir à Madrid. Est-ce que c'est plus beau sous le soleil? Je ne sais pas. 17 et 18 janvier, 12 et 13 janvier à la Comédie de Valence, Valence, France. 13 et 21 février, Bonlieu, scène nationale d'Annecy. Après, on passe en Italie, 27 et 28 février, si vous êtes du côté de Modène. Vous pouvez aller voir ce spectacle. Et enfin, Portugal, 12 et 13 juin à Porto et 19 et 20 juin à Lisbonne pour ce Bajazé vu par Franck Castorf.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Le dernier spectacle à notre affiche. On change de genre, hein, décidément. Ce soir, on en a pour tous les goûts. C'est bébé. Deux et avec. Contreau. Mais il y a trois A et deux H. Comment vous voulez que je fasse?
Non, c'était tout à fait juste.
Je peux le faire autrement, mais je peux le chanter aussi. C'est une mise en scène d'Erwan Daoufar, Julien Cotreau, qui a longtemps tourné, lui, avec le Cirque du Soleil. Il a fait un solo de clown pendant 1500 représentations. Ça a duré longtemps. Hein. Il a créé un premier spectacle en 2005, Imagine-toi, déjà mis en scène par Erwan Daoufar. Un spectacle qui, lui aussi, a tourné dans le monde entier. 1300 et quelques représentations. Qui a valu aussi à Cotreau le Molière de la révélation théâtrale. C'était en 2007. Et puis, il faut dire aussi que Julien Cotreau, depuis ses débuts, continue à jouer au théâtre ou au cinéma comme comédien. Pour d'autres... Jean-Christophe Brianchon, c'est votre tour de nous décrire la nature de ce spectacle.
Alors, la nature, je serais bien en peine de dire exactement, de mettre un mot...
Mettez-en plusieurs, alors.
Puisque, je vais essayer d'en mettre plusieurs. Julien Cotreau est effectivement circassien, mais aussi bruiteur, mime, voilà, plein de choses à la fois qui font de ce spectacle, pas seulement un spectacle de cirque, mais un moment de performance physique pendant lequel Julien Cotreau va pouvoir développer, je pense, la quasi-totalité de la palette de ses possibles, ou alors sauf s'il
a, il en a beaucoup,
encore
beaucoup,
d'autres choses à faire, mais en tout cas, là, c'est assez impressionnant de ce point de vue-là.
Intenable.
Assez intenable, mais c'est impressionnant à voir. Et si on est très concret, c'est un spectacle où Julien Cotreau est seul sur le plateau pour ce qui est de l'histoire ou du semblant d'histoire, parce qu'on en parlera, c'est peut-être le problème de cette pièce, c'est que Julien Cotreau arrive en costume, puis trouve sur le sol un gilet qu'il va enfiler. Une fois enfilé ce gilet, il va être le personnage qu'il sera pendant toute la pièce, qui lui permettra d'enchaîner numéro sur numéro, numéro circassien, on va dire, mais de bruitage aussi, de mime, de plein de choses. Bon, pendant une petite heure, jusqu'à ensuite se déshabiller à nouveau et redevenir l'homme qu'il était avant. C'est un spectacle... intéressant, je trouve.
Vous allez développer dans un instant après avoir écouté un extrait de ce spectacle en ce moment au Lucernaire.
Papa. Pompo. Que la mamma rumo e blow your face, capisce?
Premier tour de table sur ce spectacle de Julien Cotreau, Thomas Corlin.
Une série de métamorphoses extrêmes autour de la figure du clown.
Marie Sorbier.
C'est une jolie petite forme, mais qui manque de fil dramaturgique.
Et Jean-Christophe Brianchon.
Bah, une performance physique, puisque je ne l'ai pas encore dit ce soir, je crois, assez remarquable.
C'est bien. Je le note sur votre quota. C'est 2019. Bientôt, on remet les compteurs à zéro. C'est Thomas Corlin qui ouvre vraiment cette dispute sur Bibi.
Ben, c'est-à-dire que l'intérêt, je trouve, de la pièce réside surtout dans les libertés ou dans la marge de dérision que se permet Julien Cotreau. Donc, pour resituer quand même, parce qu'il y a une toute petite trame narrative. En fait, il prend comme prétexte un saut dans le passé à la mémoire de son grand-père circassien. Et donc, ça lui permet, on va dire, de faire des variations et puis d'user de pas mal de dérision autour de la figure hyper archaïque, du clown à l'ancienne. Donc il y a quand même une grande précision, parce que donc ça fait donc longtemps qu'il sait faire ça, comme on disait, une grande précision, une grande ingénuité dans le son et le mime. Il multiplie donc les plans narratifs et les personnages à toute vitesse, et donc il se permet plein de petits écarts au passage au sein d'un spectacle quand même grand public. Hein. On rappelle que bon voilà, c'est quand même du cirque quoi. Donc sous le côté innocent,
non mais je veux dire du cirque. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
C'est un spectacle.
Il y a le dérapage.
C'est un spectacle pour enfants.
Ça y est, il avait tenu jusque là. La fièvre, on va dire.
Il y a un côté innocent, donc sous la figure du clown, il y a des références très dessin animé et très BD, mais il fait intervenir quand même pas mal de gore, de brutalité, une certaine cruauté aussi envers les humains comme les animaux. Il y a vraiment des choses qui sont décrites, qui sont hyper violentes pendant la
et
pièce.
Aucun animal n'a été violenté pendant le spectacle.
Justement, c'est un peu la magie du mime.
Ah, je crois que c'est le problème.
Et il y a une deuxième dérapage. Non, il y a aussi une tendresse, un mélange de sauvagerie et tendresse aussi dans sa manière d'aborder le public, parce qu'il y a énormément d'interactions avec le public. Il le chahute d'ailleurs un peu volontiers. Et donc, il projette aussi donc l'univers du clown, je dirais, donc dans un cadre assez contemporain. Donc, il y a une bande son un peu électro. Et il se permet des petites blagues, bon, qui valent ce qu'elles valent, mais bon, qui fonctionnent assez bien. Comme par exemple, on comprend qu'il y a une sorte de scène de clubbing aquatique. On comprend qu'en fait, il est en train de prendre de la drogue avec un pote. Qui sont des choses qui passent très très bien devant un jeune public, finalement.
Encore un truc que j'ai pas vu.
Mais après, justement, je me posais énormément de questions sur la capacité d'identification, parce que ça va tellement vite. Il y a des choses, moi aussi, que j'ai pas tout à fait comprises.
Le clubbing sous-marin, j'ai pas vu.
Ah, il y a clairement une scène de clubbing sous-marin. Ouais. Enfin, ou alors, c'est vraiment.
Non,
perspective personnelle. Mais en tout cas, justement, alors, ça m'a rappelé aussi une chose, c'est qu'on a un rapport très, très. Enfin, le mime, la figure du clown, ça ramène à un rapport très cru, très primal à la scène. Alors, c'est des choses assez simples, effectivement, mais il se permet d'aborder le public donc assez crûment. Et il se prête intensément à tout ça, mais avec un certain nombre de nuances. Et donc, ça donne un show à plusieurs degrés qui fonctionne assez bien, qui est assez nerveux, je trouve.
Marie Sorbier, pas assez de nerfs, j'ai l'impression, pour vous.
Ce qui m'a touchée, il y a une chose qui m'a beaucoup touchée, c'est le presque rien. C'est-à-dire qu'il faut quand même dire que le plateau est totalement nu. Alors, on l'a dit, il met ce petit gilet de clown et puis il devient quelqu'un d'autre. Et puis là, arrive tout un monde et toute une ménagerie. Il est seul en scène pour incarner l'homme canon ou l'éléphant. Tout ça passe de l'un à l'autre, très bien. Et ça, c'est assez, c'est un peu la magie du théâtre, avec un briquet et un gilet, d'arriver à convoquer toute une ménagerie. Et un nez rouge de temps en temps, et ça marche, et il le fait très bien, et on sent en effet tout le métier qu'a ce monsieur, ça c'est indéniable. Moi j'ai deux réserves. La première, c'est ce que j'ai dit sur le fil dramaturgique qui m'a manqué, c'est-à-dire qu'on a quand même l'impression d'une accumulation de mimes, de numéros, de personnages. Alors certes on est dans un cirque, ça on le comprend tout à fait bien, mais l'enchaînement me paraît un peu brouillon, ou en tout cas j'ai pas bien suivi le fil, et ça m'a un peu manqué, et comme il n'y avait pas ce fil-là, j'ai fini par m'ennuyer, alors que la prestation est quand même très belle et très virtuose, et le spectacle assez court, mais je crois que le manque de récit sous-jacent a fini par m'ennuyer. Et deuxième réserve, mais alors ça, elle est très personnelle, moi j'ai beaucoup beaucoup de mal avec les spectacles participatifs. Et là, quand j'ai compris qu'il allait aller chercher sur
scène...
Vous avez
été pris à partie ?
Pas du tout, je me suis cachée avec ma feuille et mon stylo, j'étais totalement terrorisée en disant... Qu'est-ce que je vais faire si on m'appelle sur scène pour faire cette fameuse scène de clubbing sous-marin où je n'avais pas bien...
Sous emprise.
Et là, il y a quelqu'un de la scène qui est assis à côté de lui, qui doit faire les grosses joues parce qu'il ne peut pas respirer, il est sous l'eau. La personne qui est appelée sur scène doit le suivre et doit donc mimer avec lui. On a à un moment une scène de fil de fer où donc la jeune femme qui était conviée devait marcher sur ce fil imaginaire et le rejoindre. Voilà. Il y a au moins 3 ou 4 personnes qui vont sur scène. C'est une grosse partie du spectacle. Moi, ça me met terriblement mal à l'aise. Je crois que j'aurais aimé le savoir avant pour pouvoir me planquer davantage dans la salle. J'ai pas pu le faire, donc j'étais un petit peu tendue, ce qui aussi explique peut-être ma réaction un peu épidermique.
Il n'y a pas de bonne place pour se cacher. Hein.
Surtout au Lucernaire, où il se joue, c'est petit, c'est vrai.
Bon. Jean-Christophe Bianchon, vous avez fait quoi? Le clubbing, le fil de fer? Vous avez échappé.
J'ai un peu tout fait dans ma tête, et je vous trouve un peu dur, ou en tout cas expéditif, sur la qualité, ou à quel point le corps de cet homme et la manière dont il l'utilise peuvent être
virtuose de son
impressionnant.
Art,
on peut pas simplement dire, bon, le mec gère bien son corps, c'est pas mal. Non, c'est quand même, honnêtement, c'est vraiment assez bluffant. Moi, j'ai l'impression qu'on avait mis un mec seul dans une salle, enfermé, et qu'on l'avait obligé, comme ça, on lui avait dit, allez, vas-y, utilise ton corps, fais ce que tu peux. Et là, pendant une heure, il arrive à seul, dans sa tête, dans son esprit, avec son corps, à construire un truc, des personnages, à être tout. Quand il joue le lanceur de couteau, il est aussi bien le lanceur que le couteau, que la personne qui le reçoit, que le mur dans lequel il se plante. Il est tout à la fois. Quand il joue le lanceur de Diabolo, il est à la fois la corde, le manche, le mec qui le lance, le Diabolo, tout. Enfin, c'est quand
et
même
le ciel.
Assez dingue. Alors, ce qui fait que parfois, on comprend pas tout, hein.
Non, mais. Ça va vite.
Faut quand même être vif. Ce qui n'est pas toujours mon cas. Donc, c'est vrai
vous
que.
Vous comprenez plein de choses.
Voilà, je comprends bien. Plein de choses. Voilà, je viens ici pour comprendre un peu les spectacles que je vois. Et là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a des instants où c'est compliqué parce que le mec va à 12 000 à l'heure. Il a une rapidité de corps, d'exécution, d'esprit, d'humour, de tout ce que vous voulez, qui fait que, honnêtement, parfois, j'étais complètement largué. Je comprenais pas exactement, en deux secondes, il était devenu Diabolo. Je savais plus s'il était encore lanceur de couteau. Enfin, honnêtement, j'étais paumé. Mais c'est vraiment, vraiment impressionnant de voir un corps et un esprit aller aussi vite avec une exécution qui du coup est parfois brouillonne, hein, parce que il est pas dans la précision technique de la beauté du petit geste. Non, mais c'est quand même
une force
d'exécution et d'efficacité
aussi.
qui vont vite et qui vont bien, qui vous écrasent, mais qui parfois voilà sont un peu brouillonnes. Mais c'est impressionnant.
Bah brouillonne, je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il peut tout faire.
Extrêmement synchronisé avec le son, justement.
Oui, c'est vrai.
Oui, le son et la lumière, c'est quand même les deux éléments qui font le spectacle.
Oui, alors bon, ça, après, j'allais dire encore heureux d'une certaine manière. C'est la forme qui le. Mais c'est pas là qu'il est brouillon. Effectivement, son spectacle, il est construit, il est millimétré. Mais c'est plus que tout est justement tellement rapide parce qu'il exécute tellement de choses en si peu de temps que nécessairement, il y a un moment, voilà, il court dans tous les sens, il fait tout ce qu'il a à faire. Donc voilà, c'est là que c'est brouillon. Mais c'est pas un défaut que je veux mettre en exergue. Moi, je trouve ça assez admirable justement de voir quelque chose d'aussi qui nous écrase, qui nous passe dessus comme ça aussi fort. Je trouve ça assez dingue. Après, je rejoins tout à fait Marie sur le manque de
dramaturgie
aussi, je crois. Voilà, sur le manque de dramaturgie. Mais c'est pas le lieu, c'est pas l'objectif.
C'est moins gênant pour le cercle rond.
C'est beaucoup moins gênant.
Oui.
Non, mais
oui,
parce que
mais c'est vrai.
On peut comparer,
non, parce
là,
que
évidemment,
le cercle roux fait comme si nous racontait une histoire et constamment essaye de se rattraper pour ne finalement rien faire d'autre que de passer les plats de numéros. Alors, ce qui n'est pas le cas de Julien Cottereau, qui assume le côté réellement performatif de son geste. C'est un performeur. C'est pas, il fait pas du ciné-théâtre, du ciné-cirque. Non, il fait de la performance, quoi. Et ça se voit, et c'est assez bon de le voir.
Thomas Corlin.
Oui, effectivement, en fait, l'absence de trame narrative m'a pas spécialement dérangé, parce que comme ça vient d'être dit, ce rapport à la salle et au corps, c'est vraiment extrêmement théâtral, déjà en soi, et performativement, c'est très très satisfaisant. On a un rapport même, enfin, quand il chahute le public, il y a une manière d'instaurer un malaise, visiblement un peu trop, mais enfin, c'est quand même des choses qu'on peut se permettre.
Ça dépend que ça de monter sur scène. Hein.
Total. Et ça m'a même fait penser, vraiment, pendant tout le long de la pièce, j'ai pensé à vraiment, j'ai eu une chose qui m'est revenue, puis d'ailleurs, ça fera le lien avec Castorf. C'est Marcus Horn, qui est un Suédois, qui avait fait en fait petite pièce en hommage à sa grand-mère, d'ailleurs, qui était exactement avec un langage qui n'avait pas été très très apprécié, d'ailleurs, et puis un peu pris. Donc, qui fallait prendre, je pense, avec pas mal de cinquième degré, qui était très clownesque, d'ailleurs, en fait, avec la performance très gore, avec la performeuse Marie-Caroline Nominal, ils avaient fait ça ensemble. D'ailleurs, en plus, le parallèle, c'est un hommage à son grand-père. Et j'ai pas arrêté de penser à ça, parce qu'il y avait aussi cette manière de maximiser, de surexploiter tout l'espace scénique. Et là, en l'occurrence, avec Julien Cottereau, il est seul, il n'y a rien, il a juste un nez de clown à un moment, et ce petit veston. Et je trouve que ça fonctionne en soi. Enfin, il y a quelque chose d'assez sauvage, violent, qui rappelle vraiment ce que c'est que ça, d'être sur scène, en fait.
Marie Sorbier.
Et oui, et je lui accorde volontiers cet art d'être clown, qui est un art quand même très particulier et qui, moi, me touche, même si je le connais mal et je vais peu en voir, mais à chaque fois que je rencontre un clown, il y a quand même une poésie sauvage, comme vous le disiez, assez intrinsèque. Et lui, il l'a. Alors, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais c'est quand même quelqu'un qui porte avec lui toute cette tradition de clown magnifique.
Suivant, et ça, violent. Enfin, il est dans un état quand même aussi. Enfin, c'est une performance.
À lui, oui, il doit perdre 3 litres d'eau par performance.
Déjà qu'il n'est pas épais.
Tout à fait. Et ses micro-expressions du visage, moi, c'est ça qui m'a le plus marqué, je crois. C'est ses expressions, son changement d'expression de visage à des microsecondes, on passe en effet de l'éléphant au lion, au directeur du cirque, et tout ça est assez clair.
Moi, je l'ai pas vu, le directeur du cirque, moi.
C'est allé très très vite.
C'était après le clubbing, je crois. Mais
sous-marin.
Sous-marin, bien sûr. Et ça, c'est totalement virtuose.
Jean-Christophe Brianchon, le mot de la fin.
J'ai pas grand-chose à rajouter à part qu'il faut y aller.
Allez voir. Vous voulez dire le titre, vous?
Bébé.
Voilà, c'est son grand-père qui l'appelait Bibi. Ouais. C'est quand même un surnom. On n'est pas dans un.
Tout à fait. C'est pas gratuit.
Dans un.
Non, dans une appellation, j'allais dire exotique, comme vous semblez le signifier.
Il y a une référence quand même, j'imagine. Mais malgré tout,
il y a une chanson. Il y en a plusieurs.
C'est
un spectacle avec Julien Cottereau qui est mis en scène par Erwan Daoufar. Il est au Lucernaire jusqu'au 12 janvier. Conclure cette émission, le jeu de la dispute. Bon, c'est la fin de l'année, tout va bien. Ce soir, on fait gagner des exemplaires du livre L'Insoumis de Judith Pérignon. C'est une coédition France Culture et c'est David Dana qui nous pose, comme chaque soir, la question.
L'histoire de quel sportif le livre L'Insoumis raconte-t-il?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Issa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et David Dana. Prise de son ce soir, Jérémy Kaufmann. Réalisation, Alexandre Fougeron. Demain, à 19h, une dispute musique. Je serai en compagnie de Mathilde Sérène, Christophe Comte et Olivier Lame. À notre sommaire, nos disques de l'année. Ce sera, vous devinerez qui a choisi quoi et vous le saurez surtout demain. I Made a Place de Bonnie Prince Billy, Magdalene de FK Twigs, Titanic Rising de Wise Blood et Perfect 10 de Mustard.